Ouais, salut les AMG, et puis salut Daniel. Bon, alors là, je suis super content, parce que notre bon roi d'Arcos, eh ben, il a décidé d'embaucher 5000 personnes. Et alors là, cerise sur le gâteau, eh ben, il va les payer au moins le SMIC. Au moins le salaire minimum. Alors, on l'a échappé belle, hein, un peu plus, il est payé en dessous, ouais. Bon, alors, salut à tous, et bon courage, et à bientôt, j'espère. Salut.
C'est incroyable. Incroyable, le scoop. Incroyable. Non, mais ça fait au moins 3 ou 4 journaux de France Inter. C'est incroyable. Laure Manoudou va faire un break. C'est une information hyper importante, quoi. Laure Manoudou va faire un break. Franchement, on s'en fout, non? Allez, à plus tard. Bonne journée.
Bonjour, donc j'appelle de la Guadeloupe, c'est pour signaler qu'il y a un mouvement de grève général. La Guadeloupe est paralysée, tout secteur d'activité confondu, et en fait jusqu'à maintenant la seule réponse c'est des contingents de gendarmes venant de l'Hexagone pour pouvoir mater entre guillemets mécontentement avéré et profond. Voilà, donc depuis la Guadeloupe, silence sur les radios hexagonaux, donc entre autres France Inter, France Info, etc. Et donc on profite de l'émission de M. Mermet en le saluant pour faire passer ce message et dire qu'en Guadeloupe, eh bien en ce moment, depuis mardi 20, donc la Guadeloupe est paralysée. Merci, au revoir.
Amis MG du 49 et des départements voisins, le nouveau repère de la Bassée J'y suis s'ouvre près d'Angers. Ça se passe au Lénine Café, sur la Bastille de Chalonne, et ça commence vendredi 23 à 20h. Pour trouver plus facilement ce café, repère à l'étoile rouge, rendez-vous sur le leninecafé.com. Pour ce premier rendez-vous, nous ferons simplement connaissance. Alors camarades bretons, nos joies et en dégave, rejoignez-nous. Merci.
Bonjour à tous les auditeurs de là-bas si j'y suis. Je vous informe par la présente que le cinéma Yves Montand à Libre-Gargan, c'est dans le 9-3, ne reculant devant aucun sacrifice, vous présentera non pas un, mais bien deux films exceptionnels pour le prix d'un seul, le mercredi 28 janvier à partir de 18h. Tout d'abord Chomsky et compagnie, puis en deuxième partie de soirée, le film Choron dernière. Cerise sur les deux gâteaux, les réalisateurs Daniel Mermet pour Chomsky et Pierre Karl pour Choron seront présents à ces soirées. Et en plus, il y aura un débat après les projections, réservé dès maintenant au 01 43 83 90 39. Pour situer le cinéma, c'est facile. Il est situé juste à côté d'une petite épicerie tapis dans l'ombre. Merci.
Eh ben oui, mais j'espère être rentré, car je suis parti aux États-Unis, bon baiser de Boston, Massachusetts, où nous venons d'arriver pour une nouvelle série de reportages dont je vous parlerai ultérieurement. Ultérieurement, car il y a une urgence. Vous vous souvenez, c'est pas possible d'avoir oublié le reportage que nous avions présenté en amont. Oui, en amont, en exclusivité. BHL, son reportage dans Le Monde sur Gaza. Eh bien, on avait à moitié bien prévu les choses. En fait, le reportage est bel et bien sorti, mais dans le JDD, dans le journal du dimanche du 18 janvier. Bien sûr, il ressemble beaucoup à ce que nous avions prévu, mais en voici de larges extraits originaux. C'est exactement ce qui a été publié dans le journal du dimanche du 18 janvier, Carnet de guerre de Bernard-Henri Lévy, version là-bas si j'y suis.
Yovan Diskin est le patron du Shin Bet, la mythique et redoutable agence de sécurité intérieure d'Israël. Il est grand, massif. Il n'a, à ma connaissance, jamais parlé. Il me reçoit aux aurores, dans son bureau au nord de Tel Aviv, qui, avec ses meurtrières en largeur, ressemble à un blocos. Il faut que vous compreniez qui sont les gens du Hamas. Nous les connaissons ici mieux que personne. J'ai l'impression parfois d'être capable de suivre en temps réel, parfois de précéder leurs moindres décisions. On lui importe un gobelet de café qu'il boit d'un trait. Je fais signe que je sais. Rien ne justifie la mort d'un gosse, m'a dit Asaf, 33 ans, patron d'un restaurant à New York et, dans ses périodes de réserve, pilote d'hélicoptère Cobra. Rien. Et c'est pourquoi, lorsque le risque existe, lorsque je m'aperçois dans mon cockpit que je peux, en visant un objectif militaire, toucher aussi des civils, je démonte et je rentre à la base. J'ai mis Asaf au défi de m'apporter la preuve de ce qu'il dit. Et c'est ainsi que je me retrouve ici, dans le Negev, sur la base de Palm Hashim, saint des saints de la technologie israélienne, où ont été notamment testés les fameux missiles antimissiles Arrow. Vidéo de bord d'Asaf. Enregistrement de sa conversation, le 3 janvier, avec un interlocuteur au sol qui l'informe de sa décision de tout arrêter car le terroriste qu'il a en ligne de mire est rejoint par un enfant. Et d'incroyables films, j'en visionne 4, de ces missiles déjà lancés que le pilote, voyant qu'un civil apparaît dans son écran ou que la Jeep ciblée entre dans le garage d'un immeuble dont on n'a pas, comme c'est l'usage, alerté les occupants, détourne en pleine course et fait exploser dans un champ. Qu'Asaf ne soit pas l'exception, mais la règle, il est important de le dire. Et tant pis pour le cliché qui veut réduire Tsahal à un ramassis de brutes s'acharnant sur les femmes et les vieillards. Ehud Barak chez lui, je l'ai vu hier à Palm Hashim, entouré de ses généraux. Je le retrouve aujourd'hui dans ce salon tout en longueur qui semble construit autour des deux pianos dont il joue en virtuose. Il évoque lui aussi le dilemme moral auquel son armée est confrontée. Mais le téléphone sonne. C'est Condoleezza Rice qui appelle pour le presser de conclure très vite un cessez-le-feu. Le ministre pianiste sourit. Le ton monte à Paris. Jean-Marie Le Pen déclare que Gaza est un camp de concentration. D'autres, du côté de la gauche radicale, tonnent qu'il n'y a pas eu, depuis longtemps, pire massacre de musulmans que celui des Gazaouis. Et les 300 000 Darfouris, camarades, et les 200 000 Bosniaques, et ces dizaines de milliers de Tchétchènes que Poutine alla buter jusque dans les chiottes et qui ne vous arrachèrent pas une larme, soucieux, contrairement à vous, d'essayer au moins d'aller y voir. Je suis ce mardi 13 janvier entré à la nuit tombée dans les faubourgs de Gaza City, quartier Abassam al-Jadida, 1 kilomètre au nord de Khan Younes, embedded dans une unité d'élite Golani. Je sais, pour l'avoir évité toute ma vie, que le point de vue de l'embedded n'est pas le bon point de vue. Et je ne vais pas prétendre en quelques heures avoir capté l'esprit de cette guerre. Mais, cela étant dit, je donne mon témoignage. Les combattants de Varsovie n'avaient pas, hélas, de mines antichars du type de celle qui vient d'exploser sous les rues du véhicule passé 20 minutes avant le nôtre. Leurs assaillants n'avaient pas la lassitude, le dégoût profond de la guerre qu'expriment le commandant Guidi Kferel et les 4 réservistes qui nous accompagnent. Et puis, enfin, je peux me tromper, mais le peu, très peu, que je vois, building plongé dans l'obscurité, mais debout, vergers à l'abandon, la rue Khalil al-Wazir avec ses commerces fermés, indique la ville sonnée. Transformée en souricière, terrorisée, mais certainement pas rasée, au sens où pure lettre Grozny ou certains quartiers de Sarajevo. Peut-être serais-je démenti quand la presse entrera enfin dans Gaza, mais pour l'heure, c'est encore un fait.
Voilà, pas mal du tout, inégalable notre BHL. Eh bien, notre reportage ici à Boston n'est pas très éloigné de ce que vous venez d'entendre. Nous allons nous intéresser, nous avons décidé de nous intéresser au lobby pro-israélien. Quoi, qu'entends-je, lobby pro-israélien? Quelle horreur, c'est un tabou, etc. Eh bien, aux États-Unis, depuis maintenant plus de 2 ans, un livre énorme est sorti sur ce sujet et a eu d'immenses conséquences, non seulement sur la scène intellectuelle américaine, mais partout dans l'opinion, dans les médias et dans le monde politique. Et tout ça n'est pas sans incidence et sans relation avec ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, d'où notre présence ici à Boston. Mais on a pensé à vous, on ne vous a pas laissé seul. On vous a laissé l'aventure de lui-même, fluidifions. Aujourd'hui, la suite et la fin. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse Sigistu au 01 56 40 37 37.
Daniel, j'espère que toute l'équipe géniale et modeste de la basse Sigistu va rendre hommage au corps et à l'esprit du modèle de Mayol, d'Ina Vierny, qui fut une grande républicaine et une résistante engagée. Voilà, ces obsèques ont lieu samedi à 11h du côté de Rambouillet, renseignez-vous. Je vous salue, c'était Maxime dans les Yvelines. Ciao.
Je vous téléphone parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un bien placé au gouvernement américain et il me signale que nous n'avons pas tout vu puisque lorsque le présentateur a annoncé l'arrivée de Bush sur le podium à l'occasion de l'investiture d'Obama, le public a hurlé, vraiment des bordées prolongées, dit-on. Et même certaines personnes ont lancé leurs chaussures en l'air. Alors ça, on ne l'a pas vu à la télévision, dommage. Mais ça aurait eu au moins le mérite d'être cocasse et bien mérité. Voilà, à bientôt et puis bonne continuation, vous êtes très bien. Salut.
Poum 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 poum. Poum 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 poum.
Chomsky et compagnie passent en Bretagne. Chomsky et compagnie passent en Bretagne.
Bon, un peu plus de sérieux, donc Chomsky et compagnie passent en Bretagne, comme je viens de le dire. Donc, le samedi 24 janvier à 16h, c'est à Morlaix, au cinéma La Salamandre. À 20h30, c'est à Plougonvelin, le cinéma Le Dauphin. Le dimanche 25 à 15h, à Douarnenez, au cinéma Le Club, en présence de Boris Perrin, producteur des films et cofondateur des Mutins de la Pangée et de Zaléa TV. Donc, venez très nombreux et très nombreux. Ensuite, ça continue un peu plus avec Olivier Azam, donc à Loudéac, samedi le Quai des Images, dans la Côte d'Armor, le 26 à 20h, séance spéciale à la Maison d'Arrêt de Saint-Brieuc avec la Cinémathèque, mardi à 15h. À Brest, Cinéma Les Studios avec la Cinémathèque, mardi 27 à 20h30, en présence de René Vautier. À Questembert, Cinéma Léris, Morbihan, mercredi 28 à 20h30, avec Olivier Azam toujours. Quimperlé, le Cinéma La Bobine avec Chlorofilm, jeudi 29 à 20h30. Auray, les Arcades de Morbihan, vendredi 30 janvier à 20h. Et aussi un Pamar, Cinéma Lecmur, le vendredi 30 à 20h30. Calac, Cinéma Largouette, Côte d'Armor, le lundi 2 février à 20h30. Ça fait du bien de s'arrêter un petit peu. J'ai soif. Bon, sur ce, la ligue continue. Et puis, Daniel, on a hâte de te voir un de ces quatre. Ciao. Et puis, ceux qui veulent refaire, remettre en jour le repère de la basse Sigistu qui est un peu stand-by ces temps-ci. Ben, donc, elle, ça signe. J'ai ma langue qui sèche. La lutte continue. On ne lâche rien. Ciao tout le monde. Gros bisous.
Bonjour à tous les AMG. Bonjour à toute l'équipe de la basse Sigistu. Je lance un appel pour un concert de soutien aux inculpés de l'antiterrorisme de Tarnac et d'ailleurs. Un concert de soutien moral et physique à Julien Coupa, détenu depuis plus de 2 mois. D'éminents membres de la société civile s'insurgent contre l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute contestation peut devenir criminelle. Ça veut dire que toute insoumission est un acte de terrorisme en germe. Est-ce que ça voudra dire que demain, pour être libre, il faudra être un bon petit soldat? Le concert de soutien a lieu demain, samedi 24 janvier 2009. Seront présents en tous les cités Spock Orchestra, BAMS, Gisor, Fantasio, Les Rémouleurs et bien d'autres. Il y aura aussi des représentants du syndicat de la magistrature, de la Ligue des droits de l'homme, de l'Observatoire international des prisons. L'entrée du concert est à prix libre. C'est à l'Européen, samedi, métro Place de Clichy. Toutes les informations sont disponibles sur le site 96h.canalblog.com. Venez nombreux, vous n'êtes pas seuls.
Et je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose.
On a assisté dans l'affaire de l'UIMM à un vrai blocage judiciaire.
À quoi servait cet argent?
Fluidifier les relations sociales.
Valise de billets pour acheter, selon lui, la paix sociale.
L'argent noir est nécessairement quelque chose qui est non démocratique qui porte atteinte à la démocratie.
C'est aussi quelque chose que probablement beaucoup savaient inconsciemment.
Le pouvoir politique a délibérément choisi d'enterrer le dossier.
C'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis, avec Renaud Lambert. Fluidifions, fluidifions, fluidifions.
Flight number 2, arriving from New York.
Une autre affaire de gros sous avec un nouvel épisode dans le feuilleton de l'UIMM. Maintenant, Denis Gauthier-Sauvagnac a obtenu une indemnité de 1,5 million d'euros avant de quitter son poste. La présidente du MEDEF, Laurence Parisot, a interrompu ses vacances pour tirer au clair cette nouvelle affaire.
Les lumières, qu'est-ce que les lumières ? C'est ce dont nous sommes les héritiers, nous autres Français, démocrates et républicains, héritiers des lumières. C'est quoi les lumières ? Les lumières, c'est le triomphe de la raison sur l'irrationnel. C'est le triomphe de la lumière, du soleil, du jour sur les ténèbres. C'est le triomphe de la transparence sur l'opacité. C'est le triomphe de la lumineuse et blanche colombe sur les reptiles grouillant dans leurs marigots. C'est la main de la justice qui arrête le bras du patron assassin qui étrangle l'ouvrier, la veuve et l'orphelin. La lumière, c'est Laurence. Oui, c'est Laurence, Laurence Parisot, sur son armure, sur son cheval, avec sa bannière, où l'on peut lire M-E-D-E-F, MEDEF, avec les patrons qui la suivent et qui disent « Nous sommes tous des patrons transparents », avec Patrick Devedjian de la droite décomplexée qui en appelle à un capitalisme moral, avec Michel Rocard, l'ami d'Ernest Antoine Sellière et représentant distingué de la gauche décomplexée qui se languit de bons patrons respectables et intègres, comme il l'écrivait dans Le Monde du 6 mars dernier, et pour qui, devant le danger de voir, je cite, le capitalisme sombrer sous l'immoralité, eh bien, il pense que le combat de Madame Parisot nous concerne tous. Et il a bien raison, Michel Rocard. Voilà pourquoi nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures. Même si l'éminent Nicolas Bavrez expliquait dans les colonnes du Monde, il n'y a pas si longtemps, je le cite, « L'entreprise ne peut ni s'autoréguler, ni se trouver soumise à un principe de responsabilité illimité. Le gouvernement d'entreprise a privilégié le seul point de vue des actionnaires. » D'ailleurs, continue Nicolas Bavrez, ce choc de défiance, il peut parler de l'affaire lui-même, intervient après 2 décennies de débats et de réformes destinées à améliorer et moraliser le gouvernement, des entreprises et des marchés. Sujet passionnant. Un phacochère peut-il devenir un paon ? Un tigre peut-il manger de la luzerne ? C'est ce que nous allons savoir d'ici à 16h dans la basse édition.
Que sommes-nous face au nombril du nombre, que de la surface des sondages d'ombre, des statistiques et de l'audimat, des numéros d'ordre et du personnel. Misère de cancer, plus il y a de nombre et plus son crédit a de subventions. Face à face, en nombre décombre, pour la première fois, un et un dieu. La spéculation bouge de la raison. Si je ne m'abuse, depuis que docteur m'abuse, c'est en stock option qu'on fait du poison. Deux et deux vingt dieux, c'est pour du pognon. Comme si Tartampion presse son citron. Plus il y a du plus, ça se chiffre à plus. C'est qu'on va tous plus se payer leurs astuces. Trois, trois et trois, trente-trois. Le docteur Marteau qui fait son grand show. Du chiffre qui dit, je fais mon numéro de Vox Populi. C'est pour mon credo, je fais du petit profit. Pas de petit profit, c'est pour ma survie. Sans philanthropie, que je donne le tournis à tous mes amis. Que je donne le tournis à tous mes amis. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Où s'arrêtera cette surenchère? On est comme des rats à deux pieds sous terre. On va se faire taire après nos artères. Le jour où le nombre sera seul la terre. Le jour où la terre sera pas seulement. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Que de la surface en sondage d'ombre. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Dans ce face à face au nombre des combres. Que sommes-nous face au nombril du nombre? Nous sommes chacun face au péril du monde. À ce qui nous fait face au nombril du nombre. Qui fait que les chiffres dépassent les chiffres. Qui s'écrit en lettres bien plus grand que l'être. Qui nous dit tout net qu'un jour la planète s'arrête à la net.
Pas de panique, pas de panique face au nombril du nombre. Nous allons apporter toute la lumière et toute la transparence. C'est promis, c'est dit, c'est répété. La preuve, Laurence Parisot a interrompu ses vacances. Donc, on est en bonne voie. Qu'en pense Éric de Couty, journaliste qui nous a accompagnés tout au cours de cette enquête? Je rappelle qu'il est ancien journaliste au Figaro, grand reporter à Marianne. C'est lui qui a révélé l'affaire en septembre 2007. Alors, Éric de Couty, où en sommes-nous aujourd'hui?
Alors justement, venons-en à l'enquête judiciaire. Elle traîne un tout petit peu. Il se trouve qu'au même moment qu'a éclaté cette affaire, il y avait l'affaire Kerviel, le trader qui a produit la banqueroute ou une partie de la banqueroute de la Société Générale. Alors pour Kerviel, tout est allé très vite. Pour Denis Gauthier-Sauvagnac, ça a pris son temps, même énormément de temps.
Ah ben c'est plus que ça. C'est-à-dire qu'on a assisté dans l'affaire de l'UIMM à un vrai blocage judiciaire. Pendant 4 mois, on va rester en enquête préliminaire. Qu'est-ce que ça veut dire, enquête préliminaire? Ça veut dire qu'on fait des vérifications très tranquillement. Que c'est le pouvoir politique, le parquet, donc le pouvoir politique, qui contrôle le dossier. Et pendant 4 mois, messieurs Denis Gauthier-Sauvagnac vont être vaguement entendus et des documents vont partir. Et surtout, et le parallèle avec Kerviel est pertinent, c'est que pendant toute cette période-là, les gens du patronat vont s'arranger pour négocier ce qu'on appelle le prix du silence, pour verser, vous savez, le fameux pactole à Gauthier-Sauvagnac en échange de son silence. Dans l'affaire Kerviel, on voit quoi? Le lendemain de la révélation des faits, M. Kerviel est arrêté. M. Kerviel est mis en examen. M. Kerviel est placé en détention. Je ne dis pas qu'il fallait jeter M. Denis Gauthier-Sauvagnac en prison. Je dis simplement que dans n'importe quelle autre affaire de cette importance-là, dans toutes les affaires de cette importance-là, et vous pouvez me faire confiance, ça fait 20 ans que je baigne là-dedans, dans les affaires de financement. Les gens qui sont en cause ont interdiction de se rencontrer. C'est le béaba de l'enquête. Qu'a fait le procureur de la République de Paris? Surtout pas ça. Il a laissé faire pour qu'elle puisse se rencontrer, se concerter et organiser la défense. Kerviel, c'est exactement le contraire. C'est selon que vous soyez puissant ou misérable, la justice ne fonctionnera pas de la même façon. C'est La Fontaine. Mais ça sous-entend quelque chose de plus grave. Ça sous-entend que la justice et le pouvoir politique en place aujourd'hui ne veut pas de la vérité sur cette affaire. Et vous avez probablement remarqué que depuis le début, la classe politique parle de transparence, parle de rénovation, de renaissance, mais personne, à part quelques voix à gauche, bien modeste, mais la plupart, en tous les cas à droite, personne ne dit « on veut savoir comment la caisse noire du patronat a été alimentée et où est allé l'argent ». Et quand on ne veut pas savoir, Mécaniquement, moi, et sans doute vous aussi, on se pose la question, c'est pourquoi est-ce que vous ne voulez pas savoir? Vous avez quelque chose à cacher? Et je crois que la classe politique, aujourd'hui, peut-être pas dans son intégralité, mais dans sa grande part, a quelque chose à craindre de l'affaire de lui-même.
Il arrive souvent que l'opinion, oserais-je dire la presse, se choque de phénomènes qui sont ordinaires. Et une indemnité départ dans le cadre d'une mise à la retraite ne me paraît pas quelque chose qui soit si singulier que cela dans le monde du travail.
Et non, c'est pas un imitateur, c'est Jean-Yves Le Borgne, oui, l'avocat de Denis Gauthier-Sauvagnat. Alors, Éric de Coutille charge quand même la barque. Il en a des soupçons, ce journaliste qui enquête heure par heure sur cette affaire et qui a du pain sur la planche avec ce feuilleton et cette enquête molle. Mais pourquoi, mon Dieu, aurait-on intérêt à enterrer l'affaire? Qui a intérêt à enterrer cette affaire? Eh bien, voici Monsieur Roland Museau, député PC, ancien sénateur, qui a son point de vue. Éric de Couty vient de nous dire qu'il y a tout de même quelques voix à gauche bien modestes qui s'expriment.
Je crois que le MEDEF ne dit pas la vérité aujourd'hui. Les dirigeants du MEDEF actuel cachent ce qui a toujours été une pratique d'organisation patronale. Il y a d'ailleurs, dans les derniers jours, il y a le cas d'un ancien président du CNPF qui est épinglé parce qu'il est logé gratuitement et il touchait une retraite complémentaire au noir de 5 000 € par mois.
Vous faites référence à François Sérac ?
Oui, bien sûr. Mais des cas comme ça, il y en a probablement des dizaines, voire des centaines. Et ce que je crois, il ne faudrait pas se focaliser uniquement sur l'UIMM, qui est la branche métallurgie du patronat, qui était le bras armé le plus actif d'un point de vue visible, et la plus puissante fédération du patronat en général. Mais dans la chimie, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai été amené à dénoncer, par exemple, un document de la société Arkema, qui est une filiale de Total, qui donnait un lexique de la démarche à suivre pour empêcher que les salariés puissent faire reconnaître leur maladie professionnelle, notamment les cancers liés à l'amiante.
Vous avez évoqué tout à l'heure le prix du silence. On peut peut-être expliquer un petit peu ce qu'on entend par là. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période de l'enquête préliminaire et pourquoi est-ce que Denis Gauthier-Sauvagnac ne s'exprime-t-il pas aujourd'hui?
Alors, Éric de Couty. C'est assez amusant parce que on est. Est-ce que vous me permettez un gros mot? On est dans le bal des faux culs depuis le début dans cette histoire. C'est que donc pendant la période de l'enquête où ces gens-là ont fait disparaître gaillardement des tas de documents, hein, c'est un fait acquis, même acté par la justice, ils étaient très tranquilles. Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac dit officiellement devant la presse, puisque c'est ça, je quitte l'UIMM. Et nous, médias, en tous les cas, on le gobe, on dit, oh, ça y est, il est parti. De fait, monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac avait quitté la présidence de l'UIMM, qui est un poste bénévole et non opérationnel, l'équivalent de la présidence de la République sous la 3e et la 4e République, hein, inaugure les chrysanthèmes. Mais M. Denis Gauthier-Sauvagnac reste secrétaire général, le vrai patron de la boutique, rémunéré, je crois que c'est plus c'est 12 000 ou 20 000 euros par mois. Vraiment un poste. Et que va-t-il faire là? Il va se passer une négociation occulte entre le bureau de l'UIMM et M. Nicolas pour deux choses. La première pour son départ et la deuxième pour son silence. M. Denis Gauthier-Sauvagnac dit « Moi, je ne dirai rien à la justice, mais en ce sens, tout va me retomber sur le nez. Et donc, je vais avoir des conséquences financières considérables pour moi. » Donc, les dirigeants de l'UIMM lui disent « Écoutez, très bien, continuez à garder le silence et vous inquiétez pas, lorsque vous serez condamné à payer, c'est nous qui paierons. » Et donc, pactole, on verse à M. Denis Gauthier-Sauvagnac une prime d'1,5 million d'euros et on lui garantit qu'il n'aura rien à payer, ce sera le patronat de la métallurgie qui, au final, paiera les condamnations. Et tout ça, c'est important, c'est pas seulement une discussion de bout de gras entre gens de bonne compagnie, c'est une discussion qui va être actée juridiquement. Et ça va faire l'objet d'un contrat et d'un avenant où il est écrit « Monsieur Denis Gauthier-Sauvagnac n'aura pas à payer en substance les condamnations éventuelles, elles seront à la charge de lui-même. » Étant induit que, à la condition, évidemment, qu'il ne dise rien sur le fonctionnement de la caisse noire.
Vous l'avez vu ce contrat ou comment vous savez?
Oui, on l'a vu. Bah, moi, je l'ai révélé le 29 février, je crois, dans Marianne. Et aujourd'hui, le contrat, tout le monde l'a vu, puisqu'il a été dénoncé puis remis à la justice. Et entre parenthèses, le procureur de la République de Paris, on parlait de la justice, quasiment avant d'avoir reçu officiellement ce contrat, il a dit « moi, je trouve rien à redire ». C'est quand même un peu gros. On a des gens qui... Ça existe dans les entreprises, des négociations, et on part d'une entreprise avec de l'argent, c'est acté, il y a une clause de confidentialité. Là, on n'est pas dans une clause de confidentialité, puisqu'on est dans une procédure judiciaire. On est dans une enquête de justice. Et curieusement, le procureur, moi, ça me rend fou, le procureur de la République de Paris dit « non, écoutez, moi, je trouve ça formidable ».
En fait, ce sont des gens qui clament leur innocence, mais qui ont à ce point confiance en leur innocence qu'ils prévoient déjà les coûts financiers d'une inculpation judiciaire.
Ils ne clament pas leur innocence. Et ils ont cette espèce de pudeur, c'est qu'ils ne clament pas leur innocence, ils ne disent pas grand-chose, puisque de toute façon, il n'y a pas grand monde qui les embête. Le juge ne les embête pas trop. Simplement, ils s'arrangent pour dire « leur rage va passer, l'essentiel, c'est qu'on sauve le secret ». Et ensuite, une fois que le secret sera sauvé, on va s'arranger financièrement.
Denis Gauthier-Sauvagnac, lui, est resté muet aujourd'hui. Comble de l'histoire, il a gardé un poste de délégué général à l'UIMM pour un salaire de 20 000 euros par mois.
Assez de pognon pour moi, assez de pognon, pour moi je n'ai pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Les mains dans les poches, sous le ciel au-dessus de moi. Que le ciel soit bon qu'il soit moche, le ciel ne rapporte pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Les mains dans les poches, je mets mes pas dans mes pas. Jamais un rond ne s'y accroche, mes pas ne rapportent pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Assez de pognon pour toi, assez de pognon, pour moi je n'ai pas. Assez de pognon pour toi, assez de pognon, mais je vais comme ça. L'affiche qu'on accroche sous le ciel au-dessus de moi affiche un monde bon, riche et moche, un monde où je rapporte pas. Assez de pognon pour toi, assez de pognon, mais je vais comme ça. Les mains dans les poches, dans les rues mènent mes pas. Que la faim ou le froid m'accroche, mes pas ne rapportent pas. Assez de pognon pour moi, assez de pognon, et je vais comme ça.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
donne-moi.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
paye-moi.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
achète-moi pour.
Assez de pognon, assez de pognon, assez de pognon,
au revoir, au revoir.
Écoutez, il y a eu l'UIMM avant M. Saint-Jour et il y aura l'UIMM avec M. Saint-Jour et après M. Saint-Jour. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place, et c'est ce qu'il est en train de faire, de la transparence, de la modernité. Il est en train de revoir les statuts, il est en train de rentrer dans une logique qui est tout à fait celle que nous avons déjà mise en place depuis quelques années au sein du MEDEF, et c'est tant mieux. Nous voulons travailler avec tout le monde et on ne veut plus regarder ce qui s'est passé. On veut en revanche construire l'avenir et regarder résolument devant.
Mais oui, mais bien sûr, arrêtez de regarder toujours dans le rétroviseur le passé. Le passé, c'est du passé. Ainsi parle Hélène Molinari, directrice générale adjointe et bras droit de Laurence Parisot. Avant de continuer d'entendre ces précieuses paroles, il faut évoquer Nicolas Bavrez. Vous voyez qui est Nicolas Bavrez? C'est ce chroniqueur du quotidien Le Monde, aussi chroniqueur pour Le Point, un grand spécialiste
spécialiste d'un peu tout, notamment de l'économie, mais aussi c'est un déclinologue. C'est quelqu'un qui est l'auteur, par exemple, d'un livre qui s'intitule « La France qui tombe, un constat clinique du déclin français ». Nous sommes en déclin et voici Hélène Molinari qui nous cause, à nous.
Alors, Nicolas Bavrez, qu'on n'a plus eu besoin de présenter et qu'on ne saurait accuser d'être un dangereux gauchiste, expliquait que eh bien, ce qui se posait à nous aujourd'hui comme question, c'était une question sur la moralité du capitalisme. Il expliquait que ça fait 20 ans que l'on cherche à apporter plus d'éthique, plus de transparence, et que bon, selon lui, les efforts n'avaient pas réellement abouti. Alors vous pensez que ça sera possible ?
Oui, nous pensons que c'est possible et nous pensons que c'est nécessaire. On veut réconcilier les Français avec l'entreprise, on veut aussi réconcilier les Français avec l'économie de marché.
Ils sont un peu fâchés, hein, comme vous le savez. Il y a un sondage de 2004 de l'Université de Maryland qui montre qu'en France, plus que dans tout autre pays européen et même beaucoup de pays au monde, la majorité des Français rejettent l'économie de marché.
Oui, je pense que c'est en train d'évoluer, et tant mieux, puisque maintenant, y compris des personnalités de gauche disent qu'effectivement l'économie de marché, de toute façon, c'est la règle, et ne la rejettent plus aussi violemment en tous les cas que ce qu'ils ont eu l'occasion de la rejeter précédemment. Et l'économie de marché, c'est d'une certaine façon le libéralisme, et le libéralisme ne va pas sans la responsabilité. Or, c'est effectivement cela que nous souhaitons mettre au cœur du dispositif, au cœur du patronat. C'est oui pour la liberté, mais oui aussi pour la responsabilité. Il y a des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et cela va ensemble.
Donc vous êtes formel, responsabilité sociale et libéralisme ne sont pas incompatibles.
Absolument pas, au contraire, elles vont de pair.
Je crois qu'il est temps que l'UIMM passe à autre chose, clairement et nettement, et vienne, au contraire avec moi, fonder, construire le patronat du 21e siècle.
Est-ce qu'on n'a pas atteint ce soir un point de rupture ?
Non, il est évident que je ne veux pas tomber de Caribe en Scylla. Nous avons eu déjà un certain nombre d'affaires. Je veux que les personnes qui représentent toutes les entreprises de France, dont des institutions paritaires, soient au-dessus de tout soupçon.
Au-dessus de tout soupçon. Parfait, bravo, on applaudit bien fort. Manque de chance. Manque de chance, on entend déjà des choses quand même très curieuses. Très curieuses. Il y aurait une affaire un petit peu bizarre concernant une entreprise qui s'appelle Phone City, une plateforme téléphonique spécialisée dans la réalisation de sondages, qui aurait été condamnée par les prud'hommes. Oh, mais qu'est-ce que c'est Phone City ? Eh bien, Phone City, c'est une filiale à 100% de l'IFOP. Et l'IFOP était dirigée par Laurence Parisot. Oh, alors, pour en savoir plus, on est allé voir Le Canard Enchaîné. Vous savez, ce journal qui paraît le mercredi et qui nous apporte quelques précisions.
Alors, Jean-François Julliard, vous êtes journaliste au Canard Enchaîné, où nous nous trouvons en ce moment. Alors, la raison pour laquelle on est venu vous voir, Jean-François Julliard, c'est que nous, à la Basse CJSU, on est quand même assez contents de voir que ça y est, une page est tournée, et qu'enfin, en France, on va voir le règne de la transparence, de l'éthique et de la morale. Mais comme on ne peut pas s'empêcher de faire une petite enquête sur les gens qui nous promettent ça, on est tombé sur un papier à vous, un papier du 6 juillet 2005, dans lequel vous écrivez « Un méchant procès au prud'homme devait se tenir le 5 juillet, le matin même de l'élection à la présidence du MEDEF, et il risquait fort de ternir l'image de la toute nouvelle patronne des patrons. » Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passait ?
Tout simplement, on avait été averti que Mme Parisot devait comparaître au tribunal des prud'hommes à la suite d'une plainte qui lui avait été intentée par une de ses employées, qui était officiellement gouvernante ou maître d'hôtel, cuisinière chez elle. Le seul problème, c'est que cette personne était en réalité payé par une filiale de l'IFOP, l'entreprise de Mme Parisot, qui s'appelle Phone City. Et donc, elle recevait des fiches de paye illégales, puisqu'elles étaient à l'entête de Phone City, alors que cette personne était employée à plein temps au domicile de Mme Parisot.
Donc vous nous dites que Laurence Parisot faisait des faux contrats de travail, des fausses fiches de salaire ?
Un faux contrat de travail, des fausses fiches de paye, et lorsqu'elle l'a licencié, puisque le litige est arrivé à ce moment-là, elle a rédigé une fausse lettre de licenciement.
Bon, alors comment ça s'était réglé à l'époque ? Est-ce qu'elle a été condamnée ? Qu'est-ce qui s'est passé au prud'homme ?
Il y a eu un coup de théâtre, c'était le 5 juillet 2005. Le procès devait avoir lieu et au dernier moment, quelqu'un est arrivé avec une lettre qui disait que Madame Corinne, elle, c'était le nom qu'on l'a donné à l'époque, se désistait de sa plainte alors que pourtant elle demandait 20 000 euros de dommages et intérêts. Donc d'un seul coup, elle ne demandait plus rien. Et on s'est demandé ce qui s'est passé. On a risqué une interprétation évidemment un petit peu persifleuse, mais qui était de dire que peut-être c'était à conséquence d'un chèque reçu en dédommagement pour éteindre la plainte.
Alors nous qui venions ici pour être rassurés sur l'avenir que pouvait nous promettre Laurence Parisot, bah vous nous inquiétez finalement.
Oui, mais ça c'est parce que vous êtes d'incorrigibles pessimistes, ce qui n'est pas le cas du canard enchaîné. Nous on croit à l'amélioration de la race humaine.
Alors on est venu prendre le thé à la menthe avec Salim et David, qui ont eu une bonne nouvelle à fêter la semaine dernière, puisque vous venez de remporter, en tout cas une première étape, dans un procès au prud'homme contre Faune City. Et Faune City, c'est pas n'importe quelle entreprise, puisque c'est une filiale de l'IFOP, et l'IFOP, c'est l'entreprise de Laurence Parisot. Vous avez travaillé combien de temps à Faune City ?
4 ans, donc de 2000 à 2004. Aujourd'hui, je travaille au sein d'une entreprise d'Arty. J'ai 26 ans cette année.
Et vous, David, combien de temps vous avez passé à Faune City ?
J'ai travaillé à peu près 3 ans chez Faune City, donc je crois que c'était de 2001 à 2004.
Et aujourd'hui, vous faites quoi ?
Je suis dans un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. J'ai 30 ans cette année.
Bon alors, David, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que vous étiez au prud'homme contre Faune City ?
Pour le gros du dossier, c'est pour avoir été vacataire pendant plusieurs années. On signait des contrats tous les jours. Par contre, il y a des périodes pour lesquelles on a travaillé, on a des fiches de paye, mais on n'a pas de contrat signé.
Et vous, Salim, ça vous est arrivé aussi, ça ?
Oui, ça m'est arrivé. J'ai signé, sur une durée de 4 ans, j'ai dû signer plus d'une trentaine de CDD. Oui. Un de mes collègues aussi, qui mène un combat avec nous, qui depuis 1996 signait ces mêmes contrats, effectivement.
Mais Laurence Parisot ne devait pas savoir que ça avait lieu, ce genre de choses. Enfin, quand même, elle a un poste de responsabilité.
Je doute qu'aujourd'hui, un PDG qui a une entreprise comme l'IFOP ne sache pas les pratiques qu'il y a au sein de son entreprise. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, qu'elle le sache ou qu'elle ne le sache pas, elle en est tout à fait responsable.
Alors qu'est-ce qu'ils disaient les délégués syndicaux dans l'entreprise, des conditions de travail, de la façon dont on était embauché ?
Ils ne disaient rien parce qu'il n'y en avait pas.
Donc le dialogue social à la Parisot, ça ne passe pas forcément par la présence de syndicats ?
Je dirais que le dialogue social à la Parisot, ça va dans un seul sens. C'est les salariés qui écoutent et la patronne qui s'exprime.
Le monologue social.
Exactement, on peut parler de monologue social.
Non, mais elle le savait peut-être, mais inconsciemment. Inconsciemment, Madame Parisot. Alors, mais bon, transparence, on continue l'enquête.
Salim, vous avez prononcé deux mots qui sont importants dans la bouche de Laurence Parisot. Vous avez dit code du travail et vous avez dit précarité. Code du travail, quand on s'appelle Laurence Parisot, on n'aime pas. Elle nous a expliqué la liberté d'entreprendre s'arrête là où commence le code du travail. Par contre, précarité, on aime. Elle a dit, la vie, l'amour sont précaires, pourquoi est-ce que le travail ne le serait pas ? Alors, la question qu'on a envie de vous poser, Salim, David, peut-être que vous êtes un peu archaïque, peut-être que votre conception du travail, de la façon dont on est embauché dans une entreprise est archaïque, il faut vous moderniser un peu, les gars, non ?
Non, pas du tout. Non, je pense qu'effectivement aujourd'hui on n'est plus il y a 200 ans, où on n'est plus comme certains pays effectivement malheureusement du monde. On est en France, on est un des pays où effectivement on est le seul pays à avoir les prud'hommes et avoir aujourd'hui des personnes se sont battues pour avoir des droits, des personnes se battent encore et il faut se battre pour les faire respecter. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est les entreprises actuellement qui se développent et il n'y a plus d'épanouissement personnel parce qu'aujourd'hui on est pris, on a la gorge au cou face à ce genre. Si effectivement aujourd'hui le monde du travail est résumé par ce que dit Laurence Parisot, on a vraiment des soucis à se faire.
Dans la vie, pratiquement tout est précaire. La santé c'est précaire, l'amour c'est précaire, malheureusement parfois. L'entreprise, c'est précaire, c'est fragile. Les choses peuvent être fragiles pour le salarié. Pratiquement tout est précaire.
Bah oui, précaire, tout est précaire. Le salarié est précaire, le patron est précaire. Ouais, par exemple, à Aulnay-sous-Bois,
comment Mohamed Kenich, au téléphone, réagit après la révélation par le journal du dimanche du 8 avril que Peugeot Citroën Aulnay avait perçu 500 000 euros de la part de lui-même pour tenir lors de la grève de février-mars 2007. Vous vous souvenez si vous avez écouté les épisodes précédents.
Bon, alors Mohamed, tout ça, normalement, c'est fini. L'UMM s'est doté d'une nouvelle direction. Ce n'est plus Denis Gauthier-Sauvagnac, mais c'est Frédéric Saint-Jour qui nous est présenté comme un monsieur propre et qui nous assure que, voilà, maintenant, l'UMM est sur la voie de la modernisation, de la transparence et de l'éthique. Sauf que, Frédéric Saint-Jour, à PSA Peugeot Citroën, on le connaît bien, parce qu'il est membre du directoire de PSA, et que donc, ce que nous apprend la confirmation que PSA a bien touché de l'argent de l'UMM, c'est que celui qu'on nous présente comme un monsieur propre aurait finalement les mains pleines de cambouis. Alors ça, c'est pas vraiment rassurant, c'est même plutôt inquiétant, non ?
C'est très inquiétant. Je pense à son niveau, je pense que tout se sait. Donc je ne pense pas qu'il peut ignorer l'existence de ce gros chèque. C'est impossible.
Ah. Alors, eh ben, l'enquête continue. Conclusion provisoire avec Éric Decouty, je le rappelle encore une fois, ancien du Figaro et grand reporter à Marianne et révélateur de cette affaire en septembre 2007.
Alors, justice aux ordres, politiciens impliqués dans des affaires de financement, des syndicats aussi. On a du mal à croire que c'est de la France dont vous nous parlez. On n'a pas du tout cette image d'un pays dont on nous dit qu'on le met sur la voie de la modernité, de la transparence et de l'éthique.
Ah bah écoutez, oui, pourtant tout ce dont on vient de parler, ce ne sont que des faits. C'est pas de la glose sur la base de rien, ce ne sont que des faits. Et les faits sont têtus et ça donne l'impression d'une démocratie qui est assez mal en point, parce qu'une rénovation, une renaissance ne peut se faire que sur des bases saines. On dit ça souvent dans les discussions. Moi, je veux bien entendre les gens de l'UMM aujourd'hui ou du patronat en disant c'est fini. Et on va partir sur des bases saines. Sauf qu'on ne part jamais, on ne construit jamais quelque chose sur un tas de fumier. Si l'affaire n'avait pas été révélée, il continuerait peut-être encore. Donc, il y a une nécessité, si il doit y avoir refondation, rénovation, restructuration, je ne sais quoi, ça ne peut se faire que sur la base de la révélation de ce qui a dysfonctionné ou de ce qui a été pourri pendant toutes ces années.
C'est une nouvelle diffusion du reportage de Renaud Lambert du 29 avril 2008. Merci à Éric Decouty, à Roland Museau, à Arnaud Delaunay, à Norbert Baudru. Merci également à Mohamed Kenich, à Roger Gimnès, Salim Reiss et à David Menyoubou. À lire Les caisses noires du patronat de Gérard Filoche, paru aux éditions Jean-Claude Kassévitch, et également Quand les patrons s'organisent de Daniel Fraboulet aux éditions Septentrion. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, rubrique émission, là-bas si j'y suis. À la technique, Pierrick Monsigny et Didouine Caron, réalisation Coyen Guyenne et Raphaël Moutard, assistante Charlotte Perry, chef du répondeur Agnès Lebot. Elle attend vos messages au 01 56 40 37 37. We'll be right back.
les machines, les hommes. Mais sache qu'au moment de décider, tu seras seul. Tu ne pourras pas compter sur eux. Leur intérêt n'est pas le tien. Tous ces gens qui travailleront pour toi sont là pour exécuter, pas pour penser. S'ils se mettaient à penser, ils commenceraient à vouloir changer les choses. Et ça n'est pas dans leurs compétences. N'oublie jamais qu'ils te doivent tout.
Il y a différentes façons de diriger une entreprise. En voici une. Heureusement, il y en a d'autres.